Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice d'Almeida. Dans cet épisode, nous allons à Milan, au milieu du 19e siècle, à un moment où un homme, un compositeur de renom, un géant de l'art lyrique, va rencontrer le destin d'une nation, l'Italie de Giuseppe Verdi.
Au cœur de l'histoire.
En tant qu'Italien, je suis très peiné par ce qui est en train de se passer. Donc si j'accepte de rejouer le Va Pensiero, je ne le fais pas que pour des raisons patriotiques. Ce soir, quand le chœur chantait « Ma patrie est si belle et perdue », j'ai pensé que si nous tuons la culture sur laquelle est fondée l'histoire de l'Italie, alors notre pays deviendrait certainement une patrie belle et perdue.
C'était le célèbre chef d'orchestre italien Riccardo Muti le 12 mars 2011 à Rome. En pleine interprétation de Nabucco, l'opéra de Verdi, il faisait interrompre le chœur pour prendre la parole. Il dressait alors un bilan sombre des coupes budgétaires voulues par Silvio Berlusconi, le chef du gouvernement italien, ces coupes qui menaçaient le monde de la culture. Ce n'est pas un hasard si Riccardo Muti a choisi de s'exprimer sur cette œuvre de Verdi. Un hymne à la liberté, au patriotisme. Car tout au long de sa prestigieuse carrière, Giuseppe Verdi s'est fait l'écho du mouvement d'émancipation qui grondait en Italie, alors que l'unité n'était pas encore réalisée. Pour comprendre l'âme italienne, il faut se replonger dans l'existence de l'un de ses plus grands compositeurs, Giuseppe Verdi. Et justement, notre histoire débute à Milan, le 9 mars 1842. Ce soir-là, la Scala, le prestigieux théâtre d'opéra italien, fait salle comble. Le tout Milan est venu assister à Nabucco, un nouvel opéra écrit par Giuseppe Verdi, l'un des compositeurs talentueux de l'époque. Lorsque le rideau s'ouvre, les 2000 spectateurs interrompent leur conversation. Le silence gagne les loges, puis le parterre envahit tous les rangs de la salle. Les regards sont tournés vers la scène. Les spectateurs découvrent alors les magnifiques costumes et les décors somptueux, comme l'intérieur du temple de Salomon ou encore les jardins suspendus de Babylone. L'intrigue de Nabucco raconte l'esclavage des Juifs à Babylone sous le roi Nabucodonosor. La narration est épique et présente de nombreux rebondissements dramatiques qui tiennent le public en haleine. Mais ce qui est le plus impressionnant, ce sont les prouesses vocales auxquelles se livrent les chanteurs. Giuseppina Streponi, qui joue le rôle d'Abigail, aurait même perdu sa voix lors des représentations de Nabucco. Il faut dire que cet opéra a une dimension exceptionnelle. Il parle d'un sujet biblique, donc populaire. Il est élégiaque, présente des dizaines d'airs aux mélodies entraînantes. Il alterne des moments graves et solennels avec d'autres joyeux et enthousiasmants. Dès le début de la représentation, la salle est en émoi. C'est un véritable succès. Le public se laisse gagner par la puissance de ses voix enchanteresses. Il est frappé par la force patriotique qui émane de cet opéra. Mais la plus vive émotion va atteindre la salle à un moment particulier, celui où le chœur des esclaves entonne un air aujourd'hui fameux, Va Pensiero. Va Pensiero est le point culminant de l'opéra. C'est un hymne à la liberté qui prône l'émancipation des peuples. Il faut s'imaginer les chanteurs habillés avec des costumes du peuple juif du temps de Babylone, ainsi que la solennité des paroles qu'ils prononcent. Voici une traduction partielle de ce que dit le chœur.
Salut les rives du Jourdain, les tours abattues de Sion. Ô ma patrie si belle et perdue, ô souvenir si cher et funeste. Harpe d'or des devins fatidiques, pourquoi, muette, pends-tu au saule? Rallume les souvenirs dans le cœur, parle-nous du temps passé.
Si ce texte va émouvoir le public, c'est parce qu'il voit cet opéra comme une allégorie de sa propre condition. Et pour comprendre cette situation, il faut revenir quelques années en amont, en 1815, au moment où s'effondrait l'Empire napoléonien et où commençait l'Europe de la Restauration. En 1815, les héritiers de Napoléon perdent toute influence en Italie. Cela va s'effectuer au bénéfice de l'Autriche, car François Ier, l'empereur, réussit à reconquérir l'ensemble du territoire. La Vénétie passe à l'Autriche et va constituer avec le duché de Milan le royaume lombardo-vénitien. La Sardaigne, qui avait un temps espéré son indépendance, se retrouve rattachée à la Ligurie et va bientôt être donnée au roi de Piémont. Le duché de Toscane se retrouve lui aussi avec un souverain conservateur. De même, le royaume de Naples et la Sicile sont donnés à une famille Bourbon. En somme, c'est toute l'Italie qui a fait un formidable saut en arrière pour revenir à l'état d'avant la Révolution. Si bien qu'au moment où Giuseppe Verdi donne à Milan son Nabucco en 1842, il est face à une Italie morcelée où la nation même italienne n'existe pas. À l'époque de ce succès à La Scala, peu nombreux sont les Italiens qui songent à prendre les armes pour chasser les garnisons autrichiennes. Mais les patriotes milanais pensent à la libération de leur territoire. Pour eux, Nabucco et l'indépendance du peuple juif à l'époque babylonienne trouvent un écho à leur époque quand ils songent à leur propre patrie encore à naître. Verdi, en 1842, n'a que 29 ans. Comme il le dira lui-même quelques années plus tard, c'est avec Nabucco que commence véritablement sa carrière. L'opéra sera joué 57 fois en 4 mois, au lieu des 8 représentations qui étaient initialement prévues. En une soirée, Verdi devient célèbre. On chante « Va pensiero » dans les salons, dans les auberges, dans les rassemblements discrets de ces conspirateurs qui se réunissent dans les caves à charbon. Ceux qu'on va appeler la charbonnerie, ces républicains donc, qui restent cachés et qui ont un mouvement secret. Le morceau devient d'une incroyable popularité. Pourtant, rien ne prédestinait Verdi, ce fils d'aubergiste, né près de Busseto dans la province de Parme en Italie, à bénéficier d'une telle notoriété. Force est de constater qu'il est devenu un homme à la mode. On s'habille à la Verdi, on se coiffe, on se fait tailler la barbe à la manière du maestro. Dans les brasseries, certains commandent aussi une escalope que le compositeur a l'habitude de déguster. Tout cela grâce à la seule popularité de son opéra, Nabucco. Bien sûr, avant cet épisode, Verdi était bien connu. Il avait écrit une dizaine d'œuvres. Mais ce que les Italiens aiment particulièrement avec Nabucco, c'est que Verdi met en avant l'idée du collectif, une valeur forte pour eux, et que l'opéra n'avait jusqu'alors pas exploré. Sa nouvelle célébrité permet à Verdi de fréquenter les cercles de l'élite italienne. C'est ainsi qu'il est introduit dans le salon de la comtesse Clara Maffei, une des femmes de lettres de l'époque qui réunit un petit groupe assez raffiné dans son salon. Chez elle, le jeune trentenaire rencontre ceux qui seront les principaux acteurs de l'indépendance. Il découvre par exemple Alessandro Manzoni, un écrivain engagé qui deviendra sénateur du royaume de Sardaigne à partir de 1860 et dont l'une des œuvres servira plus tard à apprendre aux enfants italiens à écrire. Mais Verdi s'est déjà remis au travail. Il a perçu que ce que le public a aimé dans Nabucco, ce sont les chœurs grandioses et les morceaux de bravoure. Il va donc écrire un nouvel opéra à partir de 1843, avec la même logique. Ce sont les Lombards à la première croisade. Du début à la fin, l'opéra témoigne d'un esprit révolutionnaire et l'intrigue multiplie les péripéties. Tout cela pour parvenir à joindre la politique avec l'art. En voici un extrait.
«
Là encore, le succès est au rendez-vous. Si bien que Verdi se prend au jeu. Il commence à introduire des thématiques encore plus politiques dans ses œuvres, en espérant créer une sorte d'électrochoc parmi son public. La véritable première manifestation patriotique aura lieu en 1846. C'est dans la ville de Bologne que Verdi présente Hernani, son nouvel opéra, écrit d'après la pièce dramatique de Victor Hugo. L'œuvre est flamboyante. Elle déroule avec fougue un roman de cap et d'épée. Sa trame est à la fois romantique et idéaliste. Verdi veut saluer l'amnistie de prisonniers décidée par le pape, car Pie IX, le nouveau souverain pontife, tout juste élu et très populaire, est perçu comme un possible fédérateur des États italiens. À la fin de la représentation, la foule acclame le compositeur. Et lorsque le chœur entonne l'air final, « O sommo Carlo », qui signifie « O toi Charles le plus grand », les spectateurs transforment la référence à Charles Quint en cri de ralliement autour du pape et se mettent à hurler « O sommo Pio ». Le pape est ovationné. C'est le chœur des Italiens qui bat alors pour l'unité de la péninsule. Quelques mois plus tard, un mouvement libéral émerge. C'est le début de ce qu'on va appeler l'esprit de 1848, une révolution. À Milan, l'année 1848 va être celle de tous les dangers. Le 18 mars, la population se soulève et investit le palais du gouverneur. En représailles, l'armée autrichienne intervient, fait arrêter les opposants et au terme d'échauffourées, 6 personnes sont tuées. Une centaine d'élus et de personnalités respectées sont emprisonnées. Mais la réaction militaire va servir de catalyseur pour les patriotes. Voulant montrer leur désaccord, ils vont jeter de leurs fenêtres toutes sortes d'objets. Des matelas, des pots de fleurs, de petits meubles, des tuiles. Ils vont aussi boycotter le tabac pour pénaliser les taxes que le gouvernement autrichien prélève. La situation est d'autant plus tendue que le reste de l'Italie s'enflamme également. Le 19 mars, au petit matin, 1600 barricades sont érigées à Milan. Elles coupent totalement l'accès aux différents quartiers défendus par des ouvriers, des artisans et des jeunes. Quelques dirigeants de milieux populaires prennent la tête des combats. Des compagnies, des sections autrichiennes se trouvent coupées les unes des autres. Leur chef, le général Radetzky, abandonne le centre de Milan pour mieux défendre le château et les bastions. À l'issue de 5 jours de combat, la population de la ville chasse les autorités et les troupes autrichiennes. Une municipalité instaure un gouvernement provisoire modéré, en conflit avec les opposants milanais républicains et fédéralistes qui sont présents dans la ville. Cette période inaugure un épisode majeur, ce que l'on a appelé le Risorgimento, c'est-à-dire la renaissance ou la résurgence du peuple italien. De son côté, Verdi, lui, a suivi les événements de loin. Il est à Paris en ce début d'année 1848. Mais ces 5 journées de mars, ces 5 giornate, resteront dans l'histoire et vont inspirer le compositeur. Pour lui, pas question de l'exploiter en musique. Mais il veut en faire le sujet en filigrane d'un nouvel opéra, la bataille de Legnano. Là encore, Verdi ne perd pas de vue son objectif, faire résonner l'histoire avec ce qu'il vit, avec ce que traverse son peuple sous ses yeux. L'œuvre raconte le parcours d'un empereur allemand, battu par la Ligue Lombarde grâce à l'unification de plusieurs villes italiennes. À Rome, en 1849, pour la première fois, l'opéra est donné au Teatro Argentina. Déjà, lors de la répétition générale, la foule a forcé les portes du théâtre en menaçant de tout casser si on lui interdisait l'accès. Le concert est plus impressionnant encore. Verdi est rappelé 20 fois sur scène. À l'issue de la première, la salle se lève et crie « Vive l'Italie! Vive la République! Vive Verdi !» Des spectateurs brandissent des rubans et des écharpes. D'autres épinglent sur leur costume une cocarde aux couleurs d'un drapeau qui peut être un jour flottera sur le pays. Ce sont 3 couleurs, le rouge, le blanc et le vert. Presque un hommage au tricolore français, à part que le bleu a été remplacé par le vert, couleur de l'espérance. Parmi cette foule, au Teatro Argentina, un homme regarde la scène avec attention. Il oscille entre un sentiment de retenue et une envie de partager sa joie. C'est Giuseppe Garibaldi. Garibaldi, ce nom vous dit quelque chose. C'est celui d'un révolutionnaire, d'un patriote, d'un républicain, considéré comme un dangereux subversif par les empires autrichiens et même par l'Empire français. Il a déjà combattu dans un grand nombre de campagnes militaires et il a décidé de se mettre au service de l'unité italienne. Quelques jours après cette représentation, en février 1849, il arrive à la tête de la République romaine, qui a été portée par une révolution, mais bientôt, il sera repoussé par les militaires français et la police autrichienne. Sa République sera étouffée, presque avortée. À ce moment, la popularité du maestro n'a jamais été aussi grande. À presque 40 ans, Verdi est devenu l'incarnation vivante du combat pour le Risorgimento. Les mois passent et le musicien est le seul à jouir d'une grande renommée internationale. Au début des années 1850, l'heure n'est plus à l'opéra patriotique. Politiquement, la fièvre semble retomber. Le brouillard autrichien recouvre Milan et Venise. Le compositeur se lance alors dans l'écriture de plusieurs opéras qui forment une trilogie. Rigoletto, Il Trovere et la fameuse Traviata. Ils sont avant tout écrits pour mettre en valeur la voix. C'est elle qui, chez Verdi, est chargée de raconter, d'émouvoir, de faire rêver. Le compositeur opère alors une transformation du chant dans l'opéra. Les sanglots de douleur, les cris de rage, les délires de joie font partie du scénario. L'orchestre ne tient pas un discours comme chez Wagner ou Puccini. Il n'est qu'un accompagnement. Donc, pendant un temps, Verdi se tient à l'écart des événements italiens. Mais l'histoire va à nouveau le rattraper. Car pour certains, le projet d'unifier l'Italie est toujours d'actualité. C'est le cas notamment pour Victor Emmanuel II, le roi de Piémont-Sardaigne, un souverain en pleine ascension. En 1859, il évoque la cause perdue du peuple italien. Voici les mots qu'il prononce devant son parlement au Piémont.
Notre pays, petit par son territoire, a grandi en crédit dans les conseils de l'Europe, parce qu'il est grand par les idées qu'il représente et par les sympathies qu'il inspire. Respectueux des traités, nous ne pouvons cependant pas ne pas entendre le cri de douleur qui monte vers nous de toute l'Italie.
Beaucoup comprennent que c'est une déclaration de guerre contre l'Autriche qui est à nouveau envisagée. Victor Emmanuel II a pris ses précautions. Il s'est assuré du soutien de la France de Napoléon III, car ce dernier est d'accord avec l'idée d'une indépendance de l'Italie. Il espère même obtenir une alliance offensive. En cas de déclaration de guerre de l'Autriche au Piémont, la France sera présente. Le 29 avril 1859, l'Autriche envahit le Piémont après une provocation, en espérant défaire rapidement la petite armée piémontaise avant que la France ait pu lui porter secours. Ce jour-là, un homme politique se tient à la fenêtre de son ministère. Il fait partie du gouvernement de Victor Emmanuel II, c'est même son premier ministre. Il s'appelle Camillo Cavour. En cette heure grave et solennelle, il aurait, depuis son balcon, chanté un extrait de l'un des opéras de Verdi, appelé Il Trovere et le Trouvère. Voici les paroles que le premier ministre a chantées en pleine crise.
De ce bûcher, l'horrible feu brûlé enflamme tout mon être. Impie, éteignez-le, ou bien moi-même, dans votre sang, je l'éteindrai.
Cavour fait écho à l'amour patriotique que les Italiens portent à Verdi. Sur les murs des villes, on voit écrit partout le même graffiti. Viva Verdi. C'est qu'en fait, son nom est en train de devenir un acronyme. Un acronyme que tous les patriotes italiens comprennent. Verdi. V pour Victor. E pour Emmanuel. R pour Re, le roi. D pour Di. 2. I pour Italia. Verdi égale Vittorio Emanuele, Re d'Italia. Verdi va donc, par la force des choses, être poussé à aller encore plus loin dans son engagement. Il finance sur ses propres fonds la levée d'une garde nationale dans son village natal de Busseto. Entre-temps, Garibaldi a été rappelé par Cavour. Il est passé à la tête d'un groupe de 3000 hommes et met en fuite les Autrichiens. Verdi, bien sûr, ne va pas sur le front, mais il lance une nouvelle souscription pour venir en aide aux blessés et aux familles de soldats italiens morts au combat. Car le sang est là. Le 24 juin 1859, le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel II, et son allié, l'empereur des Français, Napoléon III, font face au jeune empereur d'Autriche, François-Joseph Ier. C'est la célèbre bataille de Solferino. Au terme de ce combat désordonné et aveugle, sans envergure stratégique, mais sanglant, près de 40 000 soldats restent sur le champ de bataille, morts, blessés ou disparus. 12 000 Français sont parmi eux, 6 000 Piémontais et 22 000 Autrichiens. Le total des morts s'élève environ à 6 000. L'Autriche est vaincue et cède la Lombardie à la France, laquelle la rétrocède au Piémont. Dès lors, plusieurs provinces italiennes organisent des plébiscites en faveur du ralliement au Piémont. Le score est sans appel. 17 000 sont pour être rattachés au petit royaume, contre simplement 225 électeurs. Celui qui est choisi pour se rendre à Turin et présenter les résultats du vote à Victor Emmanuel II n'est autre que Giuseppe Verdi. Pendant cette mission, la popularité du compositeur est une fois de plus prouvée, sinon au zénith. À chaque localité où le train s'arrête, tout le monde veut saluer Verdi. Des enfants lui apportent des bouquets de fleurs et des insignes tricolores. Mais Verdi va vite déchanter. Une mesure heurte son sentiment patriotique. Les traités signés par Victor Emmanuel II laissent la Vénétie sous domination autrichienne. Pour lui, c'est absolument incompréhensible. Voici les mots qu'il écrit en apprenant cette nouvelle.
Où est-elle donc, cette indépendance de l'Italie qu'on nous avait promise ? Que signifierait la proclamation de Milan ? Que la Vénétie n'est pas l'Italie ? Un tel résultat, après tant de victoires, tant de sang pour rien, c'est à devenir fou.
Furieux, il fait acheter 172 fusils pour les mettre à la disposition de la Légion de Garibaldi qui souhaite poursuivre la lutte. Palerme et Naples tomberont dans le courant des années 1860. Toujours plus engagé, Verdi prend une décision qui va étonner chacun. À 50 ans, la musique lui paraît bien loin et il va renoncer à la scène. Le 2 septembre 1859, il écrit une lettre à son ami librettiste Piave pour lui expliquer sa pensée.
« Comme vous le savez, je suis devenu un complet paysan. J'espère que mon adieu aux muses est définitif et que je n'aurai plus jamais la tentation de reprendre la plume. Parle-moi d'une autre musique, celle qui m'intéresse le plus. Comment vont les croches et les doubles croches de Garibaldi ? Tu m'avais promis de m'en parler et tu as oublié, tête de mule. Quel compositeur ! Quels opéras ! Quel final ! À coup de canon ! »
L'expédition des Milles menée par Garibaldi va permettre de libérer le royaume de Naples et des deux Siciles gouvernés par les Bourbons. En 1861, donc, Victor Emmanuel II est proclamé roi d'Italie. C'est une joie immense. Verdi se voit proposer par Cavour de devenir député au premier parlement national italien. Cavour a besoin d'hommes ayant une renommée internationale telle que Verdi. D'abord réticent, le maestro finit par accepter. Les élections ont lieu en janvier 1867 et Verdi est élu député de Borgo San Domino, dans la région de l'Émilie-Romagne. Verdi a du mal à troquer son costume d'artiste contre celui d'homme politique. Lors de la prestation de serment des nouveaux députés à Turin, tous les fidèles de Verdi prennent place dans l'hémicycle, au sein des galeries réservées au public. Le Premier ministre, les membres du gouvernement, les membres de l'Assemblée salue le compositeur comme s'il venait présenter un nouvel opéra à La Scala. Ce dernier, comme il le pressentait, ne se sent pas vraiment légitime pour incarner un pouvoir politique. Il ne va pas se rendre souvent aux séances du Parlement et va plutôt bouder ses fonctions. Peu à peu, la musique lui manque et il se remet à composer. En 1862, il arrive à Londres pour participer à l'exposition universelle. On lui a demandé de composer un opéra. Pour lui, c'est une façon de représenter les couleurs du jeune royaume d'Italie. Il va écrire l'hymne des Dacians. La pièce s'ouvre sur un chœur de peuple en liesse et se conclut par une invocation des trois grandes nations, l'Angleterre, la France et l'Italie. C'est à cette occasion que Verdi met en scène Fratelli d'Italia, l'hymne des patriotes italiens, celui qui était murmuré clandestinement. Il va ainsi lui donner une renommée internationale. Le problème, c'est que sa cantate n'est jouée que lors du concert d'inauguration malgré la commande officielle. Il faudra attendre un concert au Royal Opera pour qu'elle soit de nouveau mise en scène. On ne connaît pas vraiment les raisons de ce changement, mais une explication se trouve peut-être dans le livret. Car Verdi a remplacé l'hymne de l'empereur des Français Napoléon III par la Marseillaise, qui est le symbole des républicains. Verdi se sent humilié et rentre en Italie avec le sentiment que c'est l'honneur même de son pays qui a été bafoué. Une fois de plus, il va décider de s'éloigner de la politique. Mais l'unité italienne n'est pas en panne. En 1866, la fièvre nationaliste gagne de nouveau le royaume. La Vénétie est enfin libérée grâce à la victoire prussienne de Sadova sur les Autrichiens. Et puis c'est une autre victoire prussienne sur la France cette fois, au début du mois de septembre, le 2 septembre 1870, qui va finalement permettre à Rome de rentrer dans le royaume d'Italie et d'en devenir la capitale. C'est la défaite de Sedan. L'unité de la péninsule est enfin accomplie sous un même pouvoir politique. Verdi sait qu'il est là dans la dernière phase de sa vie. Il a 61 ans et il est élu sénateur à vie. Mais davantage pour lui marquer l'estime du peuple que pour en faire un véritable acteur de la vie publique. Verdi vieillit, Verdi mûrit. En 1887, il a l'occasion de présenter son 27e opéra, Othello, écrit d'après l'œuvre de William Shakespeare. Ce sera son dernier triomphe. À la fin de chaque acte, l'enthousiasme est tel que Verdi doit monter sur scène et qu'il y est acclamé. Ce qui l'étonne, c'est cet enthousiasme, cette réaction du public. Alors que la pièce aborde l'histoire d'un général vénitien qui revient en Italie après avoir vaincu les Turcs. En réalité, le public est d'autant plus ému que des récents événements résonnent avec cette partie de l'œuvre. 8 jours plus tôt, une colonne de soldats italiens a été massacrée par les Abyssins, en Éthiopie, à Dogali, alors que l'Italie tentait de se forger un empire colonial. Il n'en fallait pas plus pour que l'émotion suscite une nouvelle envolée de passion pour Verdi. Comme le cri que pousse Othello, qui paraît être le symbole du deuil des Italiens, fait écho au chant de Nabucco ou d'Hernani 30 ans auparavant. Verdi a eu son ultime triomphe. Il s'est ensuite écarté de la vie publique et il est mort le 27 janvier 1901. Il n'aura qu'à peine entrevu le XXe siècle. Mais avec lui, son œuvre ne s'est pas éteinte. Elle a continué de faire le tour du monde à travers les opéras. Il ne se passe d'ailleurs pas un jour sans qu'une de ses œuvres soit jouée. Si Verdi est devenu si universel, ce n'est pas uniquement parce qu'il était le grand patriote italien que nous avons vu. C'est aussi parce que ces opéras, outre leur incroyable beauté, renvoient chacun à son expérience existentielle et à ce formidable désir que nous avons d'agir collectivement. Si vous avez apprécié cette émission et si vous voulez en savoir plus, il y a un livre remarquable à aller lire. C'est celui de Laure d'Autriche, ces musiciens qui ont fait l'histoire aux éditions Taillandier. Et vous y verrez, à côté de la biographie de Verdi, celle de Berlioz, celle de Lully et même, tiens, celle de Richard Strauss, ce musicien qui s'est compromis avec les nazis.
Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda,
préparée par Adèle Salmon, réalisée par Thomas Caillet.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.